Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler d'un documentaire que vous pourrez voir mardi 15 janvier à 20h avec une ciné-rencontre, ces traces qui restent. On a avec nous le réalisateur, on en revient juste après le générique. Le film « Ces traces qui restent », un documentaire d'Olivier Félix Boilier. Bonjour, bien, c'est ça ?
Biolay.
Biolay, ah mais comme Benjamin Biolay.
Tout à fait.
Vous êtes de la famille de Benjamin Biolay ?
Absolument pas.
Très bien.
Pas pareil.
Bonjour, bienvenue sur notre antenne. On va parler de ce documentaire. C'est votre premier documentaire. On va revenir assez rapidement sur votre carrière. Vous aviez fait un court-métrage avant ce premier documentaire, un 15 minutes. Vous êtes originaire du Compiègne, puisque vous êtes de Choisy au bac. C'est ça ?
Tout à fait. Brian, oui, tout à fait. Originaire de Compiègne et amiénois depuis maintenant 25 ans.
Le 15 minutes, on en parle un petit peu. C'était quoi ? C'était une mise en bouche, une mise en jambe pour un film plus long ? Là, c'était une écriture, c'était un film ?
Ouais, c'est un film de fiction. Le premier, c'est un court-métrage qui s'appelle L'air d'un oubli, que j'ai réalisé en 2016, qui est un film qui fait suite à la formation que j'ai faite à la Sorbonne de cinéma. J'ai fait un master cinéma après une carrière professionnelle de 20 ans dans le monde de la justice et de l'entreprise. Et j'avais écrit ce scénario qui était un sujet de comme un mémoire hein, à la Sorbonne. Et on m'a dit, tu devrais le réaliser. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu la chance d'être merveilleusement accompagné par une équipe technique qui était assez impressionnante. Puisqu'il y a quand même 60 personnes qui ont travaillé sur ce film, réalisé dans les conditions vraiment d'un long métrage et avec deux comédiens de renom, puisqu'il y avait Jean-Claude Debray-Breitman, que les gens connaissent des fois à travers la série qu'il avait écrite, à savoir Thierry Lafronde, et dans laquelle il jouait. Hein. Et Jean-Claude Deray était aussi le papa de la réalisatrice-actrice Zabou. Et la grande Marina Vladi, qui nous a fait aussi l'honneur de travailler sur ce film. Film qui a été tourné aussi dans mon village d'origine, à savoir Choisy-au-Bac, dans la magnifique villa du Châtelet, qui était la maison du compositeur Léo Delibes.
Donc on reste toujours dans le Compiénois et du coup du côté de Choisy-au-Bac, puisque là, le début de l'histoire de ce documentaire va se passer au Franport, à côté de Compiègne et à côté de Choisy-au-Bac. On revient un petit peu sur la genèse un peu du documentaire, comment ça a germé cette histoire. Ces traces qui restent.
Alors, ces traces qui restent, c'est une anecdote. C'est justement, je suis en formation à la Sorbonne et je déjeune avec un ami, à savoir le président de la Chambre des appels correctionnels avec qui j'ai travaillé pendant plein d'années. Et je lui raconte l'histoire de ma grand-tante, Emilia, qui était ma grand-mère de cœur. Et en lui racontant sa vie, je lui parle de son fils. Et je lui dis, voilà, son fils, Jacques, a été arrêté pendant la guerre. Il avait 15 ans. Et il a été arrêté parce qu'il jouait à la guerre en forêt. Et là, mon ami me regarde et me dit « Mais Olivier, on n'arrêtait pas un enfant parce qu'il joue à la guerre. Il y avait autre chose. » Et je me suis rendu compte à ce moment-là, j'ai eu l'air un peu idiot, que je ne m'étais jamais posé cette question. Qui est une question évidente que tout le monde est capable de me poser là à l'instant. Sauf que
c'était
moi, je ne l'étais jamais
familiale,
posé.
En fait. C'est l'histoire qu'on vous racontait. Voilà. On vous disait qu'il s'était arrêté parce qu'il avait joué à la guerre.
C'est sa mère qui nous disait ça. Elle me répétait, moi quand j'étais enfant, Jacques a été arrêté parce qu'il jouait à la guerre. Et quand je suis sorti de ce déjeuner, je me suis dit « Mais il a raison. » En fait, on n'arrête pas un enfant parce qu'il joue. Et j'ai commencé à faire des recherches et c'est là où j'ai plongé dans l'histoire de Jacques en retrouvant très rapidement qu'il avait été déporté sous un statut spécifique qui est le statut des prisonniers NN.
Donc ça consiste en quoi, le statut NN ?
Alors j'ai découvert, tout de suite, NN, donc c'est un acronyme pour Nacht und Nebel, qui veut dire nuit et brouillard. Hein, et tout de suite, j'ai pensé à un film que j'avais vu adolescent et qui m'a marqué, à savoir le film d'Alain René, Nuit et brouillard, donc le film éponyme. Et j'ai vu très rapidement, en faisant quelques recherches sur les moteurs de recherche via Internet, rendu compte que ça n'avait rien à voir avec le film d'Alain René. Le régime des NN, des Nacht und Nebel, est un régime spécifique, un régime de terreur qui a été mis en place par les nazis à partir de la fin de l'année 1941 et jusque la fin de l'année 43, début 44.
Là, c'était un décret qui permettait en fait de déporter ces prisonniers directement en Allemagne. Souvent, c'était des gens qui étaient arrêtés pour sabotage, résistance, opposants ou réfractaires. En fait, c'était un petit peu... Il y avait un peu pas mal de monde dans cette catégorie-là quoi, à l'époque.
Tout à fait. En fait, on est en 1941, il commence à y avoir des attentats, même déjà un peu en 40, mais 41, il y a de plus en plus d'attentats contre les officiers nazis. Et en répression, on fusille des gens et on l'affiche. C'est-à-dire qu'il y a des grandes affiches et on montre cette répression au quotidien. Mais pour Hitler, on ne fusille pas assez. Et en même temps, Vichy alerte les nazis en disant « Attention, avec ce régime de fusillade, vous commencez à faire des martyrs. » Et comme Hitler veut qu'il y ait plus de répression, il a cette idée de dire « Pour lui, la disparition, c'est pire que la mort. » De faire disparaître les gens. Et c'est le sens de ce décret. Il demande à Keitel de prendre ce décret où, en fait, on fait disparaître les gens. C'est-à-dire que les gens qui sont, comme vous venez de le dire, qui sont arrêtés pour détention d'armes, pour actes de résistance, sabotage, vont être arrêtés, déportés. Ils ne sauront pas eux-mêmes où ils vont être déportés. Et les familles ne sauront jamais ce qu'ils sont devenus, s'ils sont morts, s'ils sont vivants. On doit les perdre dans la nuit et le brouillard. Ils doivent disparaître dans les limbes du temps. Et c'est vraiment le motif de ce décret.
C'est encore beaucoup plus large, parce que dedans, on retrouve les opposants et réfractaires à la politique et aux méthodes du Troisième Reich. Donc, c'est quand même assez flou en termes de... C'est quoi d'être opposant? C'est de combattre physiquement? Est-ce que c'est d'envoyer, de distribuer des tracts? C'est un peu large quand même.
On va retrouver effectivement tout type de profil dans les prisonniers NN. Alors on estime, parce que comme c'était secret, on n'a pas de chiffres exacts, voilà, mais il y a des recherches qui ont été faites, on estime qu'il y a à peu près 7 à 8 000 Français qui ont été déportés sous ce statut pendant la période que j'ai citée précédemment. Et oui, on va à la fois trouver des ouvriers, des paysans, on va retrouver des boulangers, on va retrouver des médecins, on va retrouver des ecclésiastiques dans les NN et qui ont été arrêtés pour différents motifs. Soit effectivement parce qu'ils détenaient des armes. Je peux donner un exemple. Il y a des retraités, des paysans bretons qui ont été déportés sous le statut NN parce qu'ils avaient refusé de rendre leur fusil de chasse. Ils ont été dénoncés, déportés NN. Mais aussi par les NN, vous allez avoir des grands résistants. Vous allez trouver des grandes figures, si j'en cite qu'une, hein, parce que de grandes résistantes qui est entrée au Panthéon en 2015, c'est Germaine Tillon. Voilà. Et notamment les femmes qui vont être arrêtées dans cette période-là vont être déportées NN parce que fusiller une femme en France pendant cette période, c'est risquer d'en faire une martyre, d'autant plus, et aussi chez les mineurs, ce qui va arriver dans le cadre de mon cousin Jacques, qui va être déporté NN parce qu'il avait seulement 15 ans.
Comment on se lance dans une enquête? Parce que là, c'est digne d'une enquête. Alors, du coup, il y a du mystère, il y a des choses qui vont disparaître, il n'y a pas vraiment d'archives. Comment on se dit quand on est réalisateur, finalement, je suis passé d'une fiction et puis là, je vais faire une recherche d'archiviste, d'historien. Comment on part dans cette direction-là?
Il n'y a aucune volonté de ma part au départ. Donc, quand je fais ces recherches, je les fais à titre personnel.
Donc c'est quoi? C'est les archives de famille en premier, les images, vous recherchez des photos, vous parlez à la famille?
Tout à fait. Les premières recherches que j'ai faites, c'est simplement via ce que j'ai dit tout à l'heure, via un moteur de recherche. Je commence à... Voilà, aujourd'hui Internet est un outil de recherche assez puissant, donc j'ai trouvé des informations. J'ai ressorti les archives de famille, et la première réaction après avoir sorti les archives de famille, parce que ma grand-tante Emilia m'avait donné toutes ces archives, donc je les avais, j'ai conservé. Et après, ça a été d'aller dans les archives nationales. La première démarche que j'ai faite, je suis allé dans la bibliothèque de la fondation de la déportation aux Invalides. Et c'est là où j'ai trouvé des premiers livres qui parlaient des NN. Et le conservateur m'a dit, Olivier, vous devriez aller consulter le fonds AJ40 à Pierrefitte, qui est le fonds des archives allemandes de la guerre. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Et comme j'étais en formation à l'époque à la Sorbonne, j'étais étudiant, j'avais du temps. Donc, je suis allé faire des recherches. Et j'ai mis la main dans les recherches. Et puis là, j'ai trouvé de plus en plus de choses. Ce qui m'a poussé vers des recherches non seulement à Pierrefitte, mais aussi à Vincennes, après à Leblanc, après à Caen, mais aussi après des archives au-delà de la France. C'est-à-dire des archives allemandes, des archives luxembourgeoises, des archives belges, des archives polonaises, des archives russes, des archives américaines. Voilà. Donc, quand on commence à chercher, il y a une espèce de... Là, il y a eu vraiment une quête. J'ai voulu aller jusqu'au bout, là où je pouvais aller. Et d'ailleurs, je vous le dis, le documentaire est réalisé et fait. Je n'ai toujours pas fini. C'est toujours en cours, parce qu'il y a des nouvelles archives qu'on m'ouvre encore actuellement.
Si vous écrivez au fur et à mesure l'histoire de ce film, comment ça s'écrit quand on écrit ce genre de film? Est-ce qu'on l'écrit, on documente tout ce qu'on trouve dans les archives? On commence déjà à écrire un petit peu des lignes? Comment on prend une direction pour réaliser ça?
L'écriture s'est faite parce qu'au départ, vraiment, c'était des recherches personnelles. Donc, je conservais des archives, mais pour moi, quoi. Voilà. Heureusement, c'est que dès le départ, je les ai bien classées parce que mon disque dur est bien rempli, hein, au niveau archives.
Parce que dans les archives, c'est du numérique, vous avez tout en numérique, c'est pas du papier.
On a le droit de prendre des photos. Okay. Donc, pas tous les documents, mais la plupart des documents, on a le droit de les prendre en photo. Donc, je les prenais en photo, donc c'est assez lourd. Mais je les classais bien, et heureusement. Et Au moment où, parce qu'il y a une petite anecdote autour de ce film, c'est-à-dire que je commence à avoir beaucoup d'informations. On a parlé de mon premier film, L'ère d'un oubli. Quand on finit de tourner ce film, je ramène Marina Vladi chez elle. Donc on est en mars 2016. Et sur le chemin du retour, en voiture, on discute et je lui parle de mes recherches. Et Marina me dit, mais Olivier, c'est formidable, c'est incroyable cette histoire. Il faut que tu en fasses quelque chose, fais-en un bouquin ou fais-en un film. Et quand elle me dit ça, je me dis, ouais, y a peut-être quelque chose à faire parce que je n'avais pas trouvé de film sur les NN en tant que tel.
Donc déjà, pendant le court-métrage, vous êtes déjà en train de travailler sur le prochain.
Pas du tout.
Quoi.
Non, né à ce moment-là, okay. À la fin du tournage du court-métrage.
Mais les infos.
Voilà, l'idée née de faire un film. Et j'avais déjà pas mal d'infos. Je continue à faire des recherches et au bout d'un moment, je commence à en parler. Je commence à en parler à la productrice de mon premier film, Virginie Verrier, qui me dit, écoute, c'est passionnant ce que tu me racontes. Écris quelque chose. Vas-y, écris-moi un synopsis. Je lui envoie un synopsis et elle m'appelle peu de temps après. Elle me dit, émue, elle me dit, Olivier, faut qu'on le fasse. Voilà, elle dit, c'est vraiment magnifique. Et donc là, commence le travail d'écriture, qui n'est pas un travail simple. Parce que moi, quand j'ai fait mes consultations d'archives, c'était dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai trouvé des éléments de la fin de la fin de l'histoire au début, et puis des morceaux du début à la fin. Enfin. Et donc, il a fallu que je trouve comment... Parce que je voulais faire une enquête. Est-ce que je racontais l'enquête comme je l'ai faite, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel j'ai fait, ou est-ce que je racontais de manière chronologique, pour éviter de perdre aussi le public. Et j'ai décidé de le faire... de manière chronologique, voilà, mais comme une enquête. Donc, le travail d'écriture a été assez long. Je m'y suis repris pas mal de fois. Hein. Je dois avoir 7 ou 8 versions différentes de cette écriture avant qu'on commence à tourner.
Et pour l'héritage familial, c'est lourd à porter, la famille, parce que là, du coup, on vous a un petit peu romancé cette disparition. Comment on revient dans la famille en disant, bah, finalement, les infos, il est pas mort en jouant à la guerre
La première question qui se pose en famille, c'est pourquoi tu fais ça ? Parce que c'est une histoire douloureuse.
Ouais, c'est remis comme le passé.
Les histoires douloureuses en famille, souvent on n'en parle pas. Voilà, on les garde au fond de soi ou on en parle très peu. Ce qu'a fait ma grand-tante Emilia, c'est-à-dire que moi j'ai des souvenirs hein, quand je lui en parlais. Il y avait très peu de choses qui sortaient. Il y a peu d'informations, mais en même temps, moi je me souviens enfant, je n'osais pas lui poser des questions parce que je voyais que ça lui faisait mal. Et dans la famille, quand on en parle aujourd'hui, au début quand j'en parle... Il y a ce côté douloureux. Pourquoi tu veux faire ces recherches ? Voilà. Et au fur et à mesure que j'avance, la famille s'implique. Et aujourd'hui, à la fois, il y a toujours cette douleur de savoir. Parce qu'en fait, j'ai découvert que ma grand-tante ne nous a pas tout dit. Elle savait plein de choses, mais elle a gardé pour elle. C'est ce qui devait être une grande souffrance intérieure. Et aujourd'hui aussi... une grande fierté et un hommage à cette femme que j'adorais, à Emilia, puisque on peut lui dire à travers ce film, voilà, j'ai la certitude de certains faits, je peux te dire où il est aujourd'hui, ton fils, où il a été. Je ne peux pas tout dire parce que je n'ai pas fini mes recherches encore, mais on a pu aboutir, j'ai pu continuer ces recherches à elle. D'ailleurs, des recherches qu'elle pouvait pas, des informations qu'elle ne pouvait pas avoir, puisque certaines archives ont été ouvertes seulement en décembre 2015, et qu'il y a encore des archives qui s'ouvrent. Et voilà, donc dans la famille, aujourd'hui, on a compris aussi beaucoup de choses par rapport à l'histoire d'Emilia. Et pourquoi elle ne pouvait pas en parler. Parce que le régime des NN, il faut savoir, c'est qu'il atteint au plus profond d'eux-mêmes les familles.
C'est la disparition totale, en fait,
de la personne. C'est-à-dire qu'on ne vous dira jamais ce qu'est devenue la personne et vous ne pourrez jamais faire le deuil. Et ces régimes de disparition, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je fais ce film, ils existent toujours, même dans les conflits contemporains. Et il faut en parler. Et donc, le fait de parler de ce film, de ce régime de disparition, effectivement, il y a des souvenirs familiaux, il y a des douleurs familiales, mais en même temps, il y a un réconfort de pouvoir dire vous, régime de terreur nazi, vous avez voulu mettre ces gens dans la nuit et le brouillard pour toujours, dans les limbes du temps, c'est les mots qu'ils emploient, dans les limbes du temps, eh ben non, on arrive à retrouver leurs traces. Et c'est ce que j'ai fait par 3 ans de recherche.
On se rend compte que c'est compliqué hein, au fur et à mesure du documentaire, que finalement on perd sa trace, vous perdez sa trace notamment quand il arrive à Amiens, il passe par la prison, ce que vous retrouvez des documents qui sont normalement, ils ne devraient pas être marqués sur le registre de la prison, finalement il y a un registre annexe, que vous arrivez à retrouver ce document-là. En plus, vous m'avez dit tout à l'heure que la prison a été bombardée par les alliés pour... c'était pour
l'opération Jéricho, ouais. Donc les registres brûlent. une partie des registres brûle. Et en fait, comme c'était secret, les prisonniers de l'armée allemande ne devaient pas être notés sur les registres des prisons françaises. Voilà, parce que c'était secret. Donc, ils étaient les prisonniers. Et il se trouve que, si on fait des recherches, j'ai fait des recherches aux archives départementales de l'Oise, parce qu'ils ont été détenus à Compiègne au départ, il n'y a aucune trace d'eux sur les registres de Compiègne. Et à Amiens, mystère, d'un seul coup, je tombe sur un registre annexe, parce que quand on est persévérant, quand on fait des recherches, on fouille tous les registres. Et heureusement, et sur un registre annexe, je trouve leur nom, ils sont notés, il reste très peu de temps, il reste une semaine, quatre jours, pardon, à la prison d'Amiens. Et il y a un gardien qui est à l'encontre des consignes et qui les a notés. Merci à lui, parce que c'est une trace. Voilà, dans les NN, on voulait pas qu'il y ait de traces, il y a des traces, et c'est comme ça qu'on remonte. Et effectivement, ce registre, d'ailleurs, anecdote, hein, c'est quand j'ai ouvert ce registre, il y avait encore l'odeur du brûlé de l'opération Jéricho dans ce registre. Donc, ça crée plein d'émotions.
Ils sont stockés comment ? C'est dans des boîtes ? Comment on ouvre, une archive ? C'est quoi ? C'est une boîte à chaussures avec plein d'infos dedans et puis juste un numéro pour dire que peut-être il y a ça qui se trouve à l'intérieur ? Comment ça se déroule ?
Ça peut ressembler à ça, parfois. Non. Mais par exemple, sur les registres des maisons d'arrêt, vous demandez aux archivistes d'aller les sortir parce que, et vous sortent le registre précis de l'année que vous allez demander. Donc là, vous avez une liste avec tous les registres de toutes les années, des fois par mois. Il y a les détentions provisoires, il y a les détenus passagers, il y a les grandes peines. Enfin, et donc, il faut aller sur tous les registres. Mais des fois, il y a des boîtes, effectivement, et je pourrais raconter tout à l'heure, si vous souhaitez, une anecdote sur le document le plus important que j'ai découvert dans mes recherches. C'était un peu ça, c'était un peu boîte à chaussures sur un dossier que je ne pensais pas consulter. Avec persévérance, curiosité, parce que c'est surtout ça qu'il faut, c'est beaucoup de curiosité, j'ai découvert le document le plus important qui concernait Jacques.
Bah c'est bien, ça permet de faire du teasing pour juste après. On va faire une courte pause musicale. On va écouter d'ailleurs un morceau qui est présent dans le documentaire, c'est Jean Ferrat. C'est le titre, extrait de C'est beau la vie, je crois, d'ailleurs.
C'est
beau la vie, c'est le titre du morceau. Et on se retrouve juste après ça.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau, la vie.
Jean Ferrat sur les ondes de graphite, c'est pas souvent qu'on passe du Jean Ferrat sur les ondes de graphite, souvent on passe des trucs un peu plus modernes, un peu plus péchus, mais bon c'est toujours aussi bien Jean Ferrat, hein.
C'est une chanson magnifique de Ferrat, C'est beau la vie, qui est une chanson symbolique de mon film. En fait, il y a deux chansons de Ferrat dans le film. Il y a Nuit et brouillard, et il y a C'est beau la vie. J'ai voulu ces deux titres et on les a obtenus grâce à Gérard Metz, qui est l'éditeur de Ferra, qui était aussi l'éditeur de Brel et de grandes personnes, grande personnalité de la chanson. Et l'idée, c'était que ces deux chansons se répondent. Il y a Nuit et brouillard qui est au milieu du film et le film se termine par C'est beau la vie. Parce que mon film, on en parlera des intentions, mais ce que j'ai voulu faire, j'ai pas voulu faire un film sombre. Les déportés NN, c'est Nuit et brouillard. J'ai pas voulu faire un film Nuit et brouillard. J'ai voulu faire un film où on les remet en lumière.
Sur les sentiments plutôt.
Voilà, sur les sentiments, les émotions. Et donc le film se termine par C'est beau la vie parce que c'est un message d'espoir. Et cette chanson, il y a deux mots clés à la fin de cette chanson. C'est l'amour retrouvé. Et en fait, je vous invite à voir le film pour savoir pourquoi je parle de l'amour retrouvé. Voilà, on fait un peu de teasing. Hein. Voilà.
c'est bien. Vous avez le sens du storytelling, c'est bien.
Voilà, c'est ça. Donc, mais de très belles chansons et juste pour sur les chansons, en fait, pour parler un peu de la musique du film, parce qu'on est dessus, je ne sais pas si on y reviendra. Il y a une autre chanson qu'on a pu intégrer dans le film, qui est une chanson de Jacques Pils. Alors Jacques Pils, ça ne parlera pas à grand monde, mais c'était une grande vedette dans les années 40, 50, 60. C'est un monsieur qui a été marié quand même avec Micheline Boyer et avec Édith Piaf. C'était le seul mari d'Édith Piaf, qui était vraiment une grande vedette et qui venait, qui avait une maison au Francfort. Et qui venait régulièrement dans l'établissement familial et que Jacques a côtoyé. Et donc, en fait, de manière très symbolique, on a une chanson de Pils aussi.
Ça résonne, quoi.
Ouais. Et la musique du film, parce qu'il y a une bande originale aussi du film, dont je suis très fier, qui est magnifique, a été composée par Xavier Méchali, qui est un compiénois, et qui a composé la musique de mon premier film et d'autres films qu'on a pu faire aussi, où on a pu travailler ensemble. Et vraiment, sa musique est merveilleuse. C'est une musique qui n'est pas sombre. C'est une musique qui est sur l'émotion aussi, mais qui n'est pas sombre. Mais peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur l'émotion et ce que j'ai voulu mettre dans le film, dans les intentions.
On rappelle Olivier Philippe, du coup...
Biolay,
mais pourquoi j'ai du mal à inverser les mots depuis tout à l'heure. Vous êtes documentariste et plutôt réalisateur de ce documentaire. Alors, est-ce que vous êtes documentariste?
Non, moi, je ne mets pas dans une catégorie film de fiction, film documentaire. C'est vrai que quand je suis rentré dans le milieu du cinéma, je pensais faire que de la fiction, très franchement. D'ailleurs, j'ai commencé par la fiction et là, je suis en train de travailler actuellement sur de la fiction. Mais le documentaire, je l'ai étudié à la Sorbonne. Et quand j'ai étudié à la Sorbonne, j'ai trouvé ça passionnant avec les intervenants. Et c'est naturellement que j'y suis allé. Et c'est avec un grand naturel et un grand plaisir que j'y retournerai. J'ai déjà d'autres idées de films documentaires. Mais avant, il y aura les films de fiction. Mais je vais retourner vers le documentaire.
Et on peut vous retrouver mardi au Cinéma Le Majestic pour une avant-première de Ces traces qui restent. À partir de 20h30, il y aura également un échange avec vous.
À partir de 20h,
oui. 20h, ok. Ouais. Et il y aura également échange avec le public. Le
tout
but, voilà, c'est de faire... Ça sera la première diffusion.
Alors, c'est une avant-première, donc c'est une première avant la diffusion télé qui aura lieu la semaine d'après.
Parce que ça apporte, il y a eu le soutien en fait de France 3.
C'est ça, tout à fait. Donc le groupe France Télévisions est venu par l'intermédiaire de France 3 Hauts-de-France dans le film. C'est les premiers qui nous ont fait confiance. Et donc France 3 sera le premier, notamment France 3 Hauts-de-France, à le diffuser à la fin du mois.
Tout à l'heure, vous parliez du document le plus important que vous avez pu retrouver lors de votre enquête.
Ouais.
Vous pouvez nous en reparler, maintenant que vous avez fait du teasing avant le morceau de Jean Ferrat.
Tout à fait. Quand on fait les recherches, en fait, on sait que, juste pour expliquer un peu l'histoire de mon cousin, il est arrêté le 14 février 1942 en forêt de Compiègne pour détention d'armes avec son meilleur copain, lui à 15 ans, et son copain à 16 ans. Et on ne sait pas ce qu'ils font en forêt avec ces armes, et on ne le saura jamais, je pense. Et de là, ils sont arrêtés, ils sont détenus mis au secret en prison de Compiègne. Ils vont passer par la prison d'Amiens dont on parlait tout à l'heure, vraisemblablement avec un passage à la citadelle d'Amiens, parce que là, on ne sait pas s'ils sont passés ou pas à la citadelle d'Amiens. En tout cas, on sait qu'ils ne reviennent pas au camp de Royallieu à Compiègne, là où sont pourtant passent beaucoup de NN. Et après, ils sont envoyés à la santé, à Paris, et de là, ils sont envoyés en Allemagne. Et voilà l'histoire qu'on sait. On sait qu'ils sont envoyés en Allemagne. Et c'est après-guerre qu'on va savoir qu'ils arrivent au camp d'Inzert, qui est derrière le Luxembourg, pas très loin de la frontière.
Ouais, le but, c'est de pouvoir y aller en une heure en fait, de Paris, c'est ça?
On n'est pas très loin de Paris, enfin, un peu plus d'une heure quand même, mais on n'est pas très loin de Paris. En tout cas, on passe la frontière, on est dans un camp à Inzert. Et après, dans l'histoire familiale et dans les recherches qu'a pu faire Emilia, aujourd'hui, pour l'État français, pour l'État allemand, Jacques est mort à Inzert le 19 juin 1942. Officiellement, il est mort le 19 juin 1942, le jour de son arrivée au camp, parce qu'on n'a plus de traces de lui après.
Okay.
Et le document le plus important, c'est que c'est-à-dire qu'on a eu des doutes, il y a eu des informations comme quoi il aurait pu être allé en Silésie. Donc la Silésie, à l'époque, c'est l'Allemagne, aujourd'hui, c'est la Pologne. Des terres de Pologne, mais sans certitude. Et un jour, je me trouve aux archives et j'avais du temps parce que pour reprendre mon train, j'avais 2 heures. Et dans le carton que je consultais, qui concernait la prison de Wittlich, je faisais des recherches sur Wittlich où étaient passés pas mal de NN. Et on pensait que Jacques était passé par Wittlich. Et je trouve aucune information sur lui. Et donc, il me restait du temps. Et il était trop tard pour commander un autre carton aux archives, parce qu'il y a des horaires à respecter. Et là, il y avait un peu, comme tout à l'heure on disait, une espèce de boîte à chaussures avec plein de fiches dedans. Et je vois marqué Dietz. Donc, prison de Dietz. Je me dis, bah, par curiosité, je vais y aller. Et là, il y a énormément de fiches dedans, des centaines de fiches. Et pourquoi ce jour-là, je consulte fiche par fiche? Je les tourne une par une, parce que j'ai le temps aussi. Et là, il y a un moment, tout s'arrête lorsque je vois le nom de Jacques Lamotte. Et là, j'ai du mal à croire ce que je vois. Et je tombe sur cette fiche avec une lettre. Et sur cette fiche, j'apprends que Jacques, en sortant d'Inzert, ne va pas à Wittlich, mais à la prison de Dietz. Parce que Cologne a été bombardée, etc., pour plein de raisons. Et qu'il va y rester au secret pendant 7 mois. Et sur cette même fiche est noté qu'effectivement, Jacques est envoyé en Silésie le 28 septembre 1943, et donc qui va atterrir donc en Silésie à la prison de Brieg.
Il change totalement la version officielle, quoi.
Et, ben voilà. Et là, je découvre effectivement son parcours sur cette simple fiche, en fait, qui a été récupérée, qui est dans les archives allemandes françaises, qui est en fait... Il faut savoir que il ne devait pas y avoir trop de traces. Les nazis ne voulaient pas laisser de traces de cette histoire. Mais comme on a beaucoup déplacé les NN parce qu'ils étaient au secret, on les a placés de camp en prison, on les a beaucoup déplacés avant de les juger, parce qu'ils devaient être jugés, il y a des documents qui ont été faits. Parce que les juristes nazis imposaient qu'il y ait des documents quand on passe d'une prison à un camp. Et tout n'a pas été détruit. Et ça, c'est typiquement une fiche qui n'a pas été détruite. Et donc, à marquer avec une lettre, à poser en très gros, en allemand, hein, secret. Et c'est comme ça que je sais que Jacques, il n'est pas mort le 19 juin 1942, comme c'est toujours officiellement dit, mais que le 28 septembre 1943, il était toujours vivant et il était en Silésie.
Donc il est peut-être mort après des années, peut-être après quoi.
Non, je sais la période maintenant à laquelle okay. Il est mort, c'est-à-dire qu'il est mort très peu de temps après.
Dans le camp.
En fait, il est mort pas dans un camp, en fait, il a été mis dans une prison en Pologne, donc à la prison de Brieg où étaient enfermés des NN, parce que les Alliés venaient de bombarder Cologne. Et donc il a fallu déplacer tous les NN. Et donc, on les a déplacés beaucoup plus à l'est, et notamment en Silésie, parce que là, on pensait qu'ils s'étaient protégés, cette zone. Et là, ils devaient être jugés à Breslau. Donc, c'était le nom allemand de la ville qui, aujourd'hui, en polonais, c'est la ville de Wrocław. Ils devaient être jugés là. Et donc, on les a mis dans une prison à côté, qui était la prison de Brieg. Et contre la décision des nazis, parce qu'ils devaient rester au secret, les NN, ils ne devaient pas côtoyer les autres prisonniers, c'était vraiment confidentiel. Mais on avait besoin de main-d'œuvre. Et malgré l'interdiction qui était faite par les autorités nazies, on les a fait sortir de prison pour les faire travailler dans des champs, dans des sucreries, etc., parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Et Jacques a fait partie de ces gens qu'on a envoyés dans une sucrerie à Levin-Bresky, c'est là qu'il est mort.
Là, son jeune âge, ça pose des questions. Du coup, il y a quand même des autorités françaises qui se posent des questions, qui envoient des questionnaires pour savoir où il est à l'état-major allemand. Mais à chaque fois, ils répondent que finalement, il a bien été arrêté, mais c'est tout. On peut pas en savoir plus.
Ouais. Dans les archives que j'ai retrouvées, et ça, c'est poignant parce que Emilia les avait retrouvées. Parce qu'Emilia, elle a fait beaucoup de recherches. Elle a fait beaucoup de recherches pendant la guerre, c'est-à-dire au moment où il a arrêté. Inlassablement, elle va écrire, elle va aller solliciter les autorités allemandes, les autorités françaises. Et effectivement, en raison de son jeune âge, il a 15 ans, les autorités de Vichy, par la voix de Debrinon, vont demander aux autorités allemandes où est ce jeune. Le préfet aussi de l'Oise va demander mais où sont ces jeunes? Et constamment, on va leur répondre la même chose. On n'a pas le droit de vous le dire et on vous dira pas.
Ils ont été arrêtés, mais on n'a pas le droit de
le dire. On vous dira pas où ils sont. Voilà.
Donc, comment ça s'est déroulé avec les personnes que vous avez, du coup, des historiens avec vous, une déportée également, une résistante qui est là, qui témoigne. Comment ça s'est passé, ces rencontres?
Ah, c'est un beau chemin. En fait, je suis très content de ce film parce que on parle d'une période douloureuse, une période de guerre, de conflit entre les nations. Et je me suis retrouvé à la fois dans des recherches en France, effectivement, avec des historiens, et notamment le spécialiste de la question des NN, Thomas Fontaine, qui est présent dans le film, qui est mon garant, parce que c'est un film historique, je ne suis pas historien, donc j'avais besoin de ce garant.
Donc il a revu le film avant la diffusion.
Ouais,
quand je lui ai
envoyé tout mon scénario et toute mon histoire. Thomas m'a souri, m'a dit mais vous savez déjà tout. Et alors non, c'est faux parce que voilà, je sais pas tout. Il m'a apporté aussi beaucoup de choses, mais j'avais besoin de Thomas pour dire ce qu'on dit est vrai et tout ce qui est dans le film est exact. Quand j'avais un doute, je l'ai pas mis. Même les lieux. Les lieux que vous voyez sont exacts, c'est les vrais lieux. À un moment, on voit une cage d'escalier, c'est vraiment l'escalier où il s'est fait arrêter. Quand vous voyez des armes, si je montre des armes, ce sont les vraies armes avec lesquelles ils ont été arrêtés. On en parlera sûrement, il y a des dessins. Les dessins, c'est pareil, il y a une exactitude dans les dessins, mais ça peut-être qu'on pourra prendre le temps d'en parler un peu. Donc effectivement, je rencontre des personnes, je rencontre une dame que j'adore aujourd'hui, avec qui j'adore aller prendre le thé maintenant quand je vais à Paris, c'est Jacqueline Nettman, qui est la dernière
porte-drapeau. Personne...
Ouais, c'est le porte-drapeau, c'est la dernière de l'association du souvenir des NN. Et Jacqueline a 95 ans, elle a une pêche incroyable, et ça, c'est une très belle rencontre. Mais il n'y a pas que ces rencontres-là, c'est-à-dire que quand je vais en Allemagne, je rencontre des gens qui m'accueillent très rapidement, qui me font découvrir Inzert, qui me parlent de l'histoire d'Inzert. Je comprends la douleur qu'eux-mêmes ont de ce passé quand ils m'en parlent. Quand je vais en Pologne, c'est pareil, je rencontre des gens qui, au départ, me regardent et répondent par quelques mots, et au bout de quelques jours, m'invitent chez eux, je mange chez eux. Et maintenant, quand j'y retourne, j'ai des amis en Allemagne, j'ai des amis en Pologne. Et on a pris une... Voilà, sur l'histoire, aujourd'hui, on a un recul et on a une amitié qui se crée, et on en parle et on fait avancer les choses. Et ce film, c'est... D'ailleurs, il y a quelque chose de très caractéristique. Si vous regardez mes affiches de films, j'écris un film écrit et réalisé par... J'écris pas un film de... Parce que c'est un film de l'équipe. Et tous ces gens contribuent à ce film. C'est une grande aventure humaine qui est incroyable. Une grande richesse.
Comment ça s'est passé pour la frontière de la langue ? Vous parlez allemand et vous parlez polonais ?
Absolument pas. L'allemand, quelques mots. J'étais un très mauvais élève en allemand. Et je le regrette aujourd'hui à mes professeurs que j'ai eus, avec lesquels je n'ai pas travaillé. Je m'en excuse et j'aurais dû vous écouter travailler un peu plus. Mais heureusement, j'avais les bases de l'allemand. Donc j'ai fait appel à des traducteurs.
C'est facile d'échanger avec des personnes, avec une personne entre deux ?
Ouais, parce qu'en fait, ça s'est fait naturellement, parce que mes deux interprètes allemands et polonais que j'ai eus, en fait, sont intégrés totalement l'histoire. On a passé beaucoup de temps à en parler avec eux avant, et donc j'avais une entière confiance en eux. Quand on allait vis-à-vis de personnes, par exemple de polonais, quand je suis allé avec Roman en Pologne, on a été trois fois ensemble. En plus, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire de la Silésie et qui avait une certaine diplomatie pour évoquer ces faits qui sont aussi douloureux là-bas. Et il connaissait parfaitement l'histoire. Et en fait, il était très impliqué dans l'histoire. Donc tout s'est fait très naturellement.
À un moment, on voit une scène au Francfort, on voit un bateau qui débarque sur les berges du Francfort du côté de l'armistice. Là. C'est quoi ? C'est la séquence du filmeur, c'est ça ? Ils viennent d'où ces images ? Parce que il y avait un patron qui offrait une fois par an une croisière fluviale en fait, sur l'Oise à ses employés. C'est ces archives-là ou pas du tout ?
Alors ça, c'est des archives que j'ai trouvées avec Archipop,
c'est ça.
Mauvais. Et en fait, j'ai c'est en 2017, je crois. Je découvre qu'Archipop a pu référence un certain nombre de films amateurs et de la région. Et du coup, je les interroge en leur demandant, est-ce que vous avez des films du Francfort, de Compiègne, qui se déroulent avant-guerre et pendant la guerre ? Et sur les films qu'ils m'envoient, je découvre ces images qui sont des images qui ont été prises avec effectivement les transports fluviaux de gens qui viennent en croisière au Francfort pour aller visiter la carrière d'armistice.
Ouais.
Et en découvrant ces images, je découvre des images qui sont à côté de l'établissement familial que tiennent mes arrière-grands-parents, qui tiennent un hôtel-restaurant qui s'appelle l'hôtel-restaurant de l'armistice.
C'est l'hôtel-restaurant qui est juste à la gauche, qui est devenu
une crêperie,
et c'est pas celui-là, non ?
Non, okay. Aujourd'hui c'est une maison de particulier, qui est sur la place, okay. Ouais, qui est sur la place, qui n'existe plus. On le voit dans le film d'ailleurs, hein, je montre cette maison
on voit une photo,
aujourd'hui. Ouais. Et en fait les gens venaient au Francfort pour plusieurs choses à l'époque, et donc on les voit, hein, ces gens qui viennent, c'est pour visiter la clairière de l'armistice, et aussi parce qu'on est dans les années d'après-guerre, de la Première Guerre mondiale, et donc en fait on vient faire la fête au Francfort. Et c'est pour ça qu'à un moment dans le film, il y a aussi une chanson de Jacques Pils, parce qu'on est sur les moments de fête, de danse, de joie. Et c'est dans cet univers-là qu'évolue Jacques avant que la guerre arrive.
Là, le fait que l'histoire se passe justement à côté du Francfort, où les Allemands avaient pris position dans le château du Francfort, tout ça, s'il avait été arrêté ailleurs, est-ce que sa vie aurait peut-être pu changer ? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'Allemands, du coup, là, pourquoi il a été retrouvé avec des armes ? Concrètement, on ne le sait pas.
Non,
on ne sait toujours pas.
Il y a des hypothèses que j'évoque pas dans le film, parce que je le dis, on ne saura jamais. Je pense qu'on ne saura jamais ce qu'il faisait avec ses armes de guerre, avec son copain Maurice, parce qu'ils ont été retrouvés avec un fusil et un pistolet qui étaient deux vraies armes de guerre. Moi, dans mon inconscient d'enfant, avant que je commence cette histoire, j'imaginais qu'il jouait avec des bouts de bois. quand on me dit il jouait à la guerre en forêt, j'imaginais qu'il jouait avec des bouts de bois. Ben non, c'est pas du tout des bouts de bois. Hein. Quand j'ai vu les armes, je les ai eues en main. Ce que c'était ces deux armes, parce que je suis allé dans des musées pour voir à quoi ça ressemblait, je me suis dit, ah oui, c'est du sérieux. On ne sait pas, il y a des hypothèses. Je pense qu'on ne saura jamais pourquoi ils ont été arrêtés. Mais toujours est-il qu'ils ont été arrêtés au cœur d'une forêt qu'ils connaissaient très bien depuis l'enfance, où ils jouaient constamment. Et c'est là où dans l'histoire, il y a quelque chose moi, qui me trouble, c'est qu'ils ont été arrêtés au cœur de cette forêt alors qu'ils savaient que cette forêt était occupée par les nazis, puisque c'était des dépôts de munitions. Et qu'au quotidien, Jacques, il faut savoir que l'hôtel, le restaurant de mes arrière-grands-parents, avait été réquisitionné parce qu'il faisait face au château du Francfort, qui était occupé par la Luftwaffe, et donc il logeait des soldats chez eux. Et donc au quotidien, il voyait ces soldats. Allemands, ouais. Donc qu'est-ce qui leur est passé dans la tête à ces deux jeunes de 15 et 16 ans pour se retrouver avec deux armes de guerre au milieu de cette forêt qu'ils savaient occuper, parce qu'ils se sont fait arrêter par les sentinelles de la fête de gendarmerie. Donc il y a un mystère, il y a plusieurs hypothèses. Mais ce n'est pas l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est qu'ils rentrent dans le cadre du décret NN parce qu'ils sont en possession d'armes et qu'à ce simple titre, on pouvait les arrêter. Alors, est-ce que... Je vais évoquer rapidement les trois hypothèses parce que je ne veux pas frustrer aussi en les évoquant pas. La première, c'est vraiment qu'ils jouaient à la guerre. Donc là, c'est deux idiots de 15 et 16 ans qui ont deux vraies armes et qui, voilà...
Qui ont trouvé des armes en forêt.
Et... Voilà, et donc ils vont s'amuser à tirer. La deuxième hypothèse, c'est qu'ils chassaient. Donc voilà, est-ce qu'ils chassaient vraiment? Il faut savoir que l'hiver 42, ils sont arrêtés le 14 février 1942. Il fait très froid, l'Aisne et l'Oise sont gelées, et il y a même des témoignages, on les traverse à pied. Il y a même un témoignage qui dit qu'il y a même une voiture qui passe sur l'Aisne, qui traverse l'Aisne. Pour dire, il faisait froid. Donc, mais je ne pense pas qu'ils avaient besoin de nourriture. Mes arrière-grands-parents étaient restaurateurs. Il y avait quand même l'armée à nourrir, etc. Donc je ne pense pas qu'ils, même si c'était difficile, parce que les campagnes étaient obligées de s'autosuffire à l'époque. Mais je pense pas à ça. Et la troisième hypothèse, c'est qu'ils cachaient des armes en forêt pour la résistance. Voilà. Donc, on ne saura jamais. Je ne veux émettre aucune hypothèse. La seule façon, peut-être, de savoir ce qu'ils faisaient vraiment dans cette forêt serait de retrouver les déclarations qu'ils ont faites face aux enquêteurs allemands à l'époque, puisqu'ils ont été interrogés longuement. Et ça, je pense que c'est des documents qui sont totalement perdus, qu'on ne retrouvera jamais.
Là, aujourd'hui, le documentaire fait 52 minutes, donc il est plutôt produit normalement pour la télévision. Il sera projeté demain soir au cinéma Le Majestic. Il y a une possibilité d'avoir une version un peu plus longue. Il faudrait réécrire totalement l'histoire.
Oui, le montage, il faut savoir que dans le cinéma, quand on fait un film, le montage, c'est une réécriture. C'est-à-dire qu'on écrit un scénario, on tourne des images, et au moment où on se trouve dans la salle de montage, on réécrit. C'est vraiment ce qu'on appelle une réécriture du film. Donc il y a des choses que je pensais mettre au début, que je n'ai pas mis au début, que j'ai mis à la fin, et réciproque. Il y a des images... C'était difficile. Il y a des interviews que j'ai tournées, je pense, à un résistant de Choisy-au-Bac, à Gilbert, qui a 95 ans. Son témoignage était très poignant. Je n'ai pas pu le monter dans le film parce que voilà, il y avait le format qui est imposé de 52 minutes pour la télévision. Et si je devais refaire une version plus longue, le format naturel de ce film serait 1h20. Il faudrait totalement que je retourne en salle de montage parce que ça ne serait pas le même rythme, ça ne serait pas les mêmes intentions. Donc voilà, donc ça demanderait un gros travail à nouveau de montage.
Contrairement à la fiction, c'est plus compliqué à travailler. La fiction, champ contre champ, on utilise les effets de caméra. Qu'est-ce qui est plus dur pour vous?
Non.
Ou plus naturel?
Non, il n'y a rien qui était dur ou naturel entre la fiction et le documentaire. Le documentaire, ce qui était plus difficile pour moi, ce n'était pas le montage. Je pense que c'était au moment du tournage parce que quand on fait des interviews, il faut être bon. Il faut savoir demander aux gens, par exemple, de reprendre la question. Parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle, pas répondre simplement par oui, par non.
Comme à la radio.
Comme à la radio, c'est pareil. Et c'était plutôt sur ces questions-là au départ, où je revenais le soir en me disant « Ah, je suis bête, j'ai oublié de demander ça, ou j'ai oublié de demander ça. » C'est comme quand on rencontre des gens, on ne tourne pas encore, parce qu'au départ, on rencontre des gens sans tourner, et ils vous disent des choses qui ne vous rediront jamais devant la caméra, parce que la caméra aussi intimide. Voilà. Et paradoxalement, il y a aussi des cadeaux de tournage. J'ai vécu un cadeau de tournage en Allemagne, puisque je devais interviewer la directrice de l'hôpital Saint-Joseph, où Jacques a été pendant une période de sa déportation. Et cette personne est malade ce jour-là, donc on ne peut pas l'interviewer. Et mon interlocuteur allemand que j'avais rencontré à l'époque, Eberhardt, m'a dit « Écoute, il y a un historien à la retraite à Immerschkeil, si tu veux, tu peux l'interviewer. » Comme on avait le temps, je dis « Bah oui, on va l'interviewer. » Et il se trouve que c'était pas du tout prévu. Et ce monsieur, je commence à l'interviewer, il nous parle. Et là, on se regarde, parce que toute l'équipe est intégrée. Toute l'équipe vraiment intégrée à l'histoire. On se regarde tous, mon directeur de la photographie, mon ingé son, ma traductrice. Et il a vécu les faits. il nous raconte, il dit « j'ai vu les prisonniers ». Et il nous en parle. Et il nous parle de tout ce qu'on a lu, nous, dans les témoignages et documents. Il l'a vécu, lui. Et donc, ce monsieur s'appelle Kurt, il est dans le film. Et ça, je ne l'ai pas mis dans le film parce que, voilà, il y a aussi une retenue, une pudeur dans le film. Quand il nous raconte cette histoire, à la fin, il y a des larmes qui coulent sur ses joues. Et il nous regarde, il fait « ah, ce vent, aujourd'hui, il est fort ». Voilà, et c'était le vent qui le faisait pleurer. Et il nous raconte ça avec une émotion, et ça, c'est le cadeau de tournage. Et ça, c'est pas du tout prévu. Mais on en a aussi en fiction, hein, des cadeaux de tournage. J'en ai eu sur mon premier film, j'ai eu un cadeau de tournage aussi, comme ça. C'est pas plus difficile. Et en montage, oui, c'est un montage différent, effectivement, parce que la fiction amène à... C'est une histoire qu'on invente et qui est différente. C'est pas un film historique où il y a une rigueur quand même. Il y a une rigueur historique, hein, dans mon montage. Je respecte cette rigueur historique. Je refuse de mettre... Il y a des choses que je voulais absolument mettre et qui sont mises dedans, quitte à ce que des fois le rythme soit un peu soutenu. Je concède que mon film demande une attention. Sur 52 minutes, ça demande de l'attention. Parce que l'histoire des NN n'est pas simple. Mais non, un grand plaisir de montage.
C'est quoi l'équipe ? Est-ce que du coup, également dans le film, on voit il y a quelqu'un qui fait un dessin, il y a des dessins qui sont filmés pour pouvoir voir l'intérieur des bâtiments, des reproductions de l'intérieur du bâtiment. Du coup, c'est quoi l'équipe ? Il y a des preneurs de son ? Vous êtes combien ?
On part en équipe légère. Quand on est en tournage, on part en équipe légère. Alors, si je parlais de l'ensemble du film, je vous disais, hein, j'ai comptabilisé le nombre de personnes qui ont travaillé dessus. Je pense qu'on est une cinquantaine, une soixantaine. Vraiment avoir été impliqué dans le film. Parce que y a la préparation du film, il y a toutes les équipes de production, il y a les équipes de tournage. Après, il y a les équipes de post-production. C'est-à-dire que sur la post-production, je ne vais pas faire tout. Voilà, mais il y a des monteurs images, il y a des monteurs son, il y a des étalonneurs. Enfin, voilà. Et après, il y a la distribution. Donc, il y a beaucoup de monde, hein, autour d'un film. Là, quand on partait en tournage, on partait en équipe légère sur du documentaire. C'est vrai que ce n'est pas comme une équipe de fiction sur un plateau. Quand j'avais mes 40 personnes sur un plateau, là on partait, on était 5. Donc on était 5 parce qu'il y avait à l'image, il y avait mon directeur de la photographie, il y avait Xavier, au son, il y avait Victor, il y avait mon interprète, soit c'était Mathilde, soit c'était Roman, en fonction de l'Allemagne et en Pologne, et Vincent. Donc Vincent Wagner, c'est le dessinateur. Parce que, on revient sur l'histoire des NN, c'est secret. Donc il n'y a pas de documents, il y a très peu de photos et encore moins d'images d'archives. J'ai trouvé peut-être la seule image d'archives des NN filmée. Et aller dans le film, tourné par les Luxembourgeois en 1946 sur le camp d'Inzert. Et heureusement qu'ils l'ont filmé, sinon on n'aurait jamais eu d'image du camp. Donc on part, comme il y a très peu d'images, c'est comment je raconte l'histoire de Jacques et des NN, si je n'ai pas d'image à mettre. C'est difficile pour un film. Et je ne voulais pas faire de reconstitution. C'est-à-dire que je peux apprécier les documentaires, et il y en a de très bien faits avec de la reconstitution, mais moi je n'avais pas envie. J'avais testé, hein, j'avais fait une maquette avant.
Ça aurait été beaucoup plus lourd en plus.
Ouais, j'avais testé une maquette avec quelque chose de très subjectif, où au départ on suivait les chaussures, uniquement les chaussures de Jacques. Et ça n'emballait pas plus que ça, la production, les chaînes. Et l'idée du dessin était l'idée première que j'avais eue. En fait, j'avais envie de voir du dessin naître à l'image. Et j'ai découvert le travail de Vincent Wagner, un dessinateur qui a fait une cinquantaine de BD déjà. Et j'avais vu la rigueur qu'il avait eue à faire une BD au camp du Struthof, donc qui parle aussi des NN. Et de cette rigueur du dessin, c'est-à-dire que tout est juste dans son trait. Quand il dessine un officier allemand, il dessine le bon corps. Si c'est la Luftwaffe, c'est la Luftwaffe. Si c'est un SS, c'est un SS. Et j'ai appelé Vincent, il a été surpris. Il dit, écoutez, j'ai jamais fait ça, faire des dessins en direct dans un film. Et donc, il nous a rejoints dans l'aventure. Il a trouvé ça passionnant. Et on l'a emmené dans tous les lieux. Ça, par contre, c'est une demande que j'avais faite à la production, qui était un peu lourde. C'est que le dessinateur vienne avec nous. Donc, il est venu avec nous en France, en Allemagne et en Pologne. Et il est venu avec nous sur les lieux exacts où ça s'est passé. C'est-à-dire que tous les dessins que vous voyez dans le film, c'est quand il y a un dessin, par exemple, je peux parler du dessin de l'arrestation de Jacques et Maurice dans la forêt de l'Aigle, hein, au Francfort. On l'a dessiné, il est venu avec nous en forêt, là où ils ont été arrêtés. Quand on dessine un dessin dans la sucrerie de Lévin-Bresky, là où il était dans les travaux forcés, il est venu avec nous en Pologne. Et il a dessiné dans la sucrerie. Et on a même été dans une prison en Pologne, à Wrocław, là où étaient détenus les NN et où ils étaient exécutés, parce que les NN qui ont été exécutés ont été guillotinés dans les prisons là-bas. Vincent est venu avec nous. On a eu l'autorisation de tourner dans cette prison qui est toujours en activité. Il y a encore 1300 détenus. Et Vincent est rentré dans une cellule et a dessiné une cellule à l'intérieur de la cellule. C'était important que l'équipe rentre aussi dans ces lieux et s'intègre et s'imprègne des lieux et de cette histoire. Et à mon sens, alors après, maintenant, le film ne m'appartient plus et je laisserai le public juger. Et à mon sens, c'est pour ça que les dessins marchent, parce que Vincent était avec nous et on est sur les lieux.
Mais c'est pas fait après en post-production, quoi.
Pas du tout.
Du coup, il peut y avoir une deuxième vie, enfin une troisième vie, puisqu'il y aura la vie cinématographique, enfin au cinéma, il y aura la vie à la télévision. Est-ce que vous pensez sortir un DVD avec peut-être les choses qui n'ont pas été mises dans le film, peut-être une plaquette avec les dessins? Vous avez gardé les dessins? Il y a plus de dessins qu'on voit du coup dans le documentaire.
Alors, au niveau des dessins, il y a pas plus de dessins. Tous les dessins sont là. Ils ont été vraiment faits sur place. Donc, il y a 8 dessins dans le film. Et ces dessins vont vivre... C'est un scoop, tiens, que je vous dis. En même temps, comme ça, vous allez avoir un scoop. Vont avoir une vie, moi, qui me plaît. Enfin, voilà, j'étais surpris quand j'ai eu la demande. Ils vont avoir une vie dans un musée. Ouais, c'est-à-dire que le directeur d'un musée m'a demandé à ce que les dessins, à avoir les dessins, donc au Musée National de la Résistance. Donc, ces dessins appartiennent au dessinateur, à Vincent. Bon, j'en ai parlé à la production est d'accord, et Vincent est d'accord. Donc, ils vont être exposés au Musée National de la Résistance. Après, il y a un DVD qui est en cours de fabrication. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'images et de bonus qui sont prévus dedans. Mais il y a beaucoup d'images, en fait, qui ne sont pas montées dans le film, des interviews. Et j'ai envie de me rapprocher de certains réseaux, comme le réseau Canopé, pour dans faire vivre écoles, ces interviews. Voilà. Ouais. Parce qu'il ne faut pas que je les laisse au fond d'un disque dur. Il faut que ça continue à vivre. Et dans la vie de ce film... il se trouve que Vincent Wagner, le dessinateur, a tellement été passionné par cette histoire et ce tournage qu'actuellement, avec Vincent, nous commençons à travailler l'élaboration d'une BD. En fait, ce film va être repris dans une BD qui va être une approche un peu différente du film. Et on commence à travailler dessus. Ce sera une BD à peu près de 90 pages. Donc, ça y est, c'est en train de se monter.
Et comment on juge la réussite d'un documentaire pour sa vie? Alors, pour un film, c'est au nombre d'entrées au cinéma. Du coup, pour un documentaire qui va être principalement à la télévision, c'est quoi? C'est le nombre de commandes à l'étranger, la vie qu'il va avoir à l'étranger, puisque là, du coup, il va y avoir des versions peut-être en allemand, en polonais, c'est ça?
Alors, le film actuellement, donc là, va être diffusé sur France Télévisions. Il peut être repris aussi par d'autres deux chaînes, à la fois du groupe France Télévisions, mais pourquoi pas par
France
d'autres.
France 5, France 2.
Voilà, il pourrait être repris par d'autres chaînes, ce qui serait une grande satisfaction aussi.
Arte, peut-être être... Parce que du coup, c'est...
Je ne sais pas si Arte peut racheter un film qui a déjà été diffusé sur France Télévisions, je ne sais pas, mais ce serait un grand plaisir. Un petit message à Fabrice Puchaud, s'il veut l'acheter, donc le patron des documentaires sur Arte.
Je pensais qu'il y avait un échange avec Arte et France Télévisions, je ne sais pas.
Je maîtrise pas, mais ça me ferait vraiment plaisir. Mais ce film va avoir aussi une vie à l'étranger, effectivement, puisque la RTBF l'a vu et l'a aimé. Donc j'espère qu'ils vont le diffuser, l'acheter, le diffuser. On a eu des contacts avec la Pologne, avec l'Allemagne, qui sont aussi demandeurs de ce film, même avec les Tchèques aussi, qui ont vu ce film et qui sont intéressés. Donc voilà, ce film, j'aimerais bien qu'il voyage. Et aujourd'hui, la vie et la réussite de ce film... Je pense que moi, je la mesurais lorsque je vais être en salle avec le public et que je vais pouvoir échanger avec le public. C'est quelles émotions je peux faire créer à travers ce film. Moi, je fais du cinéma parce que j'ai des engagements, j'ai des choses que j'ai envie de dire. Et surtout, le cinéma, pour moi, c'est créer des émotions. Et les émotions, ce n'est pas simplement j'aime, c'est aussi des fois des films, j'aime pas. Ils me créent une émotion, mais c'est intéressant. On peut en débattre,
Comme la musique.
Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je pense que je vais mesurer, et peut-être de manière très concrète, en étant pragmatique, je pense que je mesurerai peut-être que ce film, il y a eu une réussite, si demain, je peux refaire un autre.
Ça, c'est une bonne chose, ça. Ça, c'est... Donc là, c'est un appel là, que vous faites.
Bah voilà, effectivement, j'attends de voir le public, comment le public va recevoir ce film. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il y a les professionnels aussi. Donc je commence à avoir des retours de professionnels, de critiques du cinéma sur ce film. Je suis plutôt content de ce qu'ils me disent.
Vous êtes né en 72, est-ce que vous êtes la génération un peu de Netflix, du coup de la vidéo à la demande? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la possibilité de que ça soit diffusé sur quelque chose à la demande? Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, la télévision, les jeunes regardent plus facilement la télévision comme avant, on allait à la messe, hein. Aujourd'hui c'est à la demande. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Ou France 3 peut-être a réfléchi à ça?
Alors après, il y a une partie moi, qui ne m'appartient pas, qui est la partie de la production et la partie de la diffusion, donc de la distribution. Donc ça, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas et ça, c'est le travail de mes productrices, hein. Aussi et la distribution. Mais oui, par exemple, sur les prochains projets, c'est des choses auxquelles je réfléchis. On parle de Netflix. Oui, il faut penser aujourd'hui le cinéma aussi de manière différente. Moi, je suis un inconditionnel de la salle. C'est-à-dire que mon film, effectivement, là, c'est un peu compliqué. C'est un film qui est fait pour la télévision. Parce que quand on part avec France Télévisions, c'est aussi pour faire un film pour la télévision. Le format l'impose. Par contre, mon film, France Télévisions a accepté, et ça, je les remercie, parce que c'est vraiment... voilà, c'est aussi des cadeaux qu'ils me font. Si vous avez l'occasion de voir ce film en salle, vous verrez que le format, ce n'est pas du 16/9e. Je ne suis pas sur du scope, mais je suis sur un format intermédiaire entre le 16/9e et le scope. Voilà, pour qu'on profite aussi un peu de cette image dans la profondeur de champ. À la fois pour que son écran de télé, on puisse profiter de la profondeur de champ, parce qu'on est dans des lieux comme les forêts, etc. Et je voulais vraiment... On parle de disparition, qu'on profite de cette profondeur. Mais aussi en salle de cinéma, du coup, on profite de la largeur de l'écran. Et la salle... Il y a une chose qui est différente. Netflix, j'adore ce principe parce qu'on ouvre à beaucoup de possibilités de voir des films qu'on ne verrait pas ailleurs. Mais la salle de cinéma, c'est pas une image qui arrive. L'écran de télé, c'est une image qui arrive vers nous, vers nos yeux. La salle de cinéma, l'image arrive de derrière nous, se projette sur un écran et tous les regards sont orientés vers le même sens. Les regards suivent l'image et on la partage dans une salle de cinéma. On est tous ensemble. Et comme m'a dit très récemment la présidente du Festival du film d'Amiens où le film a été projeté, elle m'a dit « Olivier, il faut que je te dise quelque chose. Ton film, il faut qu'on le partage en salle. C'est un film qui a besoin d'être partagé, qu'on doit voir ensemble. » Parce qu'elle l'avait vu avant sur petit écran, elle l'a vu en salle. Et là, voilà, je suis content quand on me dit ça. C'est un film qu'on doit partager, qu'on doit voir ensemble. Et c'est pour ça que moi, je reste toujours dans la salle. Quand mon film est projeté. Je veux le vivre aussi, même si je le connais maintenant, et je vois à chaque fois tous les défauts de mes films, mais j'ai envie de le partager avec le public.
Il y avait un grand réalisateur, je ne sais plus c'était lequel, qui avait dit quand on va au cinéma, on a la tête levée vers en hauteur, et on est en communion avec les autres, et quand on est à la maison, on a plutôt la tête baissée vers le bas. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais bon, je l'avais déjà réutilisé. Parce qu'on fait souvent des débats, on bosse assez régulièrement avec le Cinéma Le Majestic. D'ailleurs, je peux également placer qu'on va bientôt refaire un film au Cinéma Le Majestic, on va faire Le Grand Bleu dans la salle Ice, puisqu'on on projette plutôt des cinémas de la pop culture, donc on a pu faire les Gremlins, on a pu faire ce genre de choses. Et c'est vrai que la communion d'un film, c'est un peu comme aller au concert, quoi. C'est vrai que après on peut discuter avec les gens. Là, il y a déjà eu, là c'est une avant-première, mais il n'y a pas eu du tout d'avant-première avant celle-ci.
Non, parce qu'une avant-première, c'est une avant-première.
Il peut y avoir des avant-premières ou des premières de presse.
Il y a eu une exception avec l'autorisation de France Télévisions de la production, c'est que le film a été sélectionné au Festival international du film d'Amiens. Donc c'est une grande fierté pour moi parce que c'est ma ville, c'est mon festival de cœur que je suis très très longtemps. Et donc le film a été en compétition.
Vous avez été jury, je crois, dans le Festival d'Amiens ?
Non, je n'ai pas été jury. Non. J'ai travaillé au festival, okay. J'étais accompagnateur pendant des années parce que c'est un festival que j'aimais. Mais donc il a été en sélection et donc là, effectivement, il y a eu une projection qui était avant l'avant-première, qui était exceptionnelle, mais c'était pour participer au festival.
D'accord. Okay.
Donc il y a déjà eu quelques réactions de public, hein. Je connais déjà quelques réactions de public.
Et ça va, c'est des bonnes réactions?
C'est difficile pour les gens, quand la lumière se rallume, de relever la tête, et difficile d'en parler immédiatement. Et tous les témoignages que j'ai reçus arrivent souvent le lendemain.
Est-ce que le fait qu'il ait 15 ans et le fait qu'on ne sache pas vraiment pourquoi il a été emprisonné, est-ce que c'est ça aussi qui joue sur la lourdeur un peu de l'histoire? Si ça avait été quelqu'un dans la force de l'âge où on était sûr qu'il avait fait de la résistance, et est-ce que ça aurait changé un peu le cours de l'histoire d'après vous? Parce que là, le fait qu'il ait 15 ans au début de l'histoire, on se dit quand même les deux, ils sont arrêtés, c'est des ados, quoi.
Ouais, c'est des ados. En même temps, quand on regarde l'image... On regarde l'image de Jacques, je montre des photos de lui, parce que je veux qu'on rentre en empathie avec ce jeune. Ce que je disais au début, c'est un film pour moi sur l'émotion. C'est-à-dire que je veux qu'on suive l'émotion de ce jeune, enfin, qu'on comprenne ce que vit un déporté NN, puisqu'on le fait disparaître, il ne sait pas où il va arriver, mais aussi les familles. Voilà, ce que vivent les familles, ne pas savoir ce que sont leurs proches. Donc un film vraiment sur l'émotion. Et c'est vrai que le fait que Jacques ait 15 ans... Alors quand on le voit en 1940, on le voit avec des culottes courtes. Il a 13 ans. Et on voit que c'est un gamin. Les dernières photos qu'on a de lui, et je montre dans le film la dernière photo de lui, il a 15 ans, on voit un homme. Et c'est assez étonnant, c'est assez troublant. On n'imagine pas qu'il ait 15 ans à ce moment-là. Mais je pense qu'effectivement, pour les gens, de suivre le trajet, parce que dans son on pense à soi-même quand on avait 15 ans, mais dans son entourage, j'ai des nièces qui ont cet âge-là. D'ailleurs, on avait fait une cérémonie, parce qu'on retrouve dans le film, hein, on grave le nom de Jacques au monument mort de Choisy-Aubac. Elles avaient le même âge, elles ont lu un texte à ce moment-là en disant qu'elles avaient le même âge. On se transpose, et effectivement, il y a une émotion qui arrive. Pour répondre à votre question, s'il avait été plus âgé, est-ce qu'on aurait eu... Non, ça aurait été différent, ça aurait été une histoire différente, qui n'aurait pas empêché l'émotion, mais oui, le fait que ce soit deux mineurs et qu'on suive la vie de ces jeunes qui n'ont pas eu le temps de connaître l'amour parce qu'ils étaient tellement jeunes, quoi. Voilà, ils ont vécu la guerre, ils ont vécu la violence, ils sortaient de l'adolescence. Jacques, sa vie s'arrête, il a 16 ans. Voilà, qu'est-ce qu'il a connu ? Donc, oui, ça marque, oui, ça touche.
Il y a des familles, du coup, de déportés qui sont venus vous contacter en disant on a eu à peu près la même histoire, on a des histoires un peu similaires. Et nous aussi, on a fait des recherches.
Alors, pas directement comme ça, mais oui, j'ai rencontré forcément des familles de déportés pendant toutes mes recherches. Sur le travail que j'ai fait, j'ai rencontré des personnes qui ont eu envie, du coup, de se lancer dans des mêmes recherches, qui ont eu envie de faire une démarche similaire à la mienne, qui n'est pas évidente, parce qu'il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de curiosité, mais qui ont eu envie de se lancer comme ça. Et il y a des très beaux témoignages que j'ai eus de personnes qui me disent, qui me racontent leur histoire de famille, de ce qu'ils ont vécu, parce que des gens arrêtés pour résistance et fusillés, soit des gens qui ont fait des actes de résistance qui sont passés à travers les mailles du filet. Si je prends le cas de Jacqueline Netman, dont je parlais tout à l'heure, qui est dans le film, elle est passée à travers les mailles du filet, c'est-à-dire que ses parents, Jacqueline, ont été arrêtés et font partie du premier convoi NN. C'est les premiers NN à partir, et son père, d'ailleurs, sera décapité à la prison de Wrocław. Et elle, Jacqueline, qui fait de la résistance, comme ses parents, est arrêtée, et par quel miracle elle est relâchée. Et donc, elle n'est pas déportée. Et cette... Voilà, c'est ces gens-là qu'on rencontre, comme Gilbert, dont je parlais tout à l'heure, pareil, qui a fait des actes de résistance et qui me dit, à un moment, il me parle de ce qui aurait pu être la fin de sa vie. Ça aurait pu basculer à un moment où il se trouve en possession d'armes et les Allemands arrivent. Et comment il y échappe, lui-même est incapable de l'expliquer et sa vie aurait pu s'arrêter là. Donc, c'est tous ces témoignages-là que j'ai eus dans les recherches que j'ai faites et les rencontres.
On rappelle les horaires et les dates. Ça sera le 15 janvier au cinéma Le Majestic. Le documentaire s'appelle « Ces traces qui restent ». Ça sera à partir de 20h et donc en votre compagnie pour faire un échange avec la salle. C'est le même jour en fait qu'on diffuse Le Grand Bleu. Donc on sera dans une autre salle. Donc soit vous allez voir quelque chose de très sérieux ou quelque chose de plus léger. Faites votre choix. venez nous
c'est
voir.
C'est la version longue du Grand Bleu.
C'est je sais pas. En tout cas, c'est une version restaurée donc dans la salle Ice. Donc c'est, je sais pas. Si vous voulez, venez nous voir hein, pendant le. Vous échappez un petit peu. Et
je ne m'échappe pas de mes films. Je vis mon film. Alors, je suis désolé. Hein, je n'irai pas voir Le Grand Bleu.
Il passe souvent,
à
la télévision.
Je le reverrai. Mais j'ai envie de partager de cette communion sur cette avant-première. Parce qu'une avant-première, c'est une avant-première. En plus, il va y avoir plein de personnes.
De la famille qui vont venir.
De la famille, mais des amis, des personnes qui ont suivi le film pendant toute sa progression. Il va y avoir des élus aussi qui viennent, qui ont été touchés par cette histoire et qui veulent aussi s'approprier cette histoire. Donc, j'ai envie de le partager avec eux.
Là, il peut avoir une vie en dehors du documentaire dans le Compiénois. Est-ce que ça peut intégrer. Il a déjà intégré la stèle, du coup, le nom a intégré la stèle, mais est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, est-ce que la ville de Choisy-au-Bac ou au Franport, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être envisageable?
Alors, ce qu'on va faire, c'est dans les partenaires, parce qu'on a un certain nombre de partenaires qui sont venus nous rejoindre, comme le CNC, la région. Voilà, il y a aussi le département de l'Oise qui est venu. Et avec ces soutiens, c'est de dire aussi ce que j'ai envie de faire, et moi j'adore, c'est d'aller le présenter auprès des scolaires. L'histoire des NN est méconnue du grand public. Et j'ai envie d'en parler auprès des jeunes. Et j'ai déjà commencé. Par exemple, vous parlez de ma commune d'origine, Choisy-au-Bac. J'étais très flatté quand les directrices d'école m'ont contacté pour me demander de venir en parler aux élèves du primaire. J'étais assez intimidé, moi, l'adulte, d'être face à des enfants qui étaient en CM1, CM2, pour leur parler de l'histoire de Jacques. Et c'était très touchant parce qu'en fait, ils ont tout compris. Et aujourd'hui, j'en vis maintenant, parce que là, c'était pendant le tournage. Et ils voulaient savoir comment se passait un tournage. Ils étaient très curieux. Puis aussi, l'histoire, le fond de cette histoire. Et là, maintenant, c'est une grande envie, un grand plaisir d'aller leur présenter, de leur montrer, de parler de cette histoire.
La diffusion à la télévision, c'est pour quand ?
Il y a deux dates donc, sur France 3 Hauts-de-France. Il y aura le 28 janvier, après le soir 3. Donc voilà, si vous vous couchez tard. Et il y aura une diffusion le 1er février à 8h50, si vous vous levez pas trop tard. Et après, il sera en replay.
Sur le Plus, ouais, sur le Plus.
Voilà. Donc on pourra le voir comme ça. Et puis après, bah, éventuellement, sur les autres chaînes plus tard.
Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. On rappelle, c'est le mardi 15 janvier au cinéma Le Majestic à Compiègne. Et alors, pour faire aussi un petit parallèle, il y a une soirée d'hommage à Jacques Brel et dedans, c'est Moïse Mélandé. Et en fait, Moïse jouera au Majestic le 18 janvier. Donc voilà, ça rebondit un petit peu, parce qu'on le voit également dans votre documentaire.
Et, oui, et Moïse, avec sa magnifique voix, m'a fait aussi un cadeau parce qu'il vient chanter a cappella dans le film et c'est absolument magnifique.
Donc là,
allez voir Moïse.
Soirée hommage à Jacques Brel le vendredi 18 janvier au Majestic, il se passe plein de choses au Majestic, c'est devenu the place to be, question culture. Merci beaucoup, en tout cas on espère vous revoir très prochainement. Le prochain, là c'est déjà en écriture le prochain film ?
Oui, il y a plusieurs films en écriture et voilà, il y a un long métrage hein, qui est déjà écrit depuis longtemps, maintenant il faut trouver la production, c'est un film qui se passe entre la France et le Japon sur des périodes assez différentes et actuellement là il y a une trilogie de courts-métrages qui seraient des films musicaux, voilà, et on est en train de travailler avec mon compositeur, avec Xavier Méchali sur ce film.
Et pour finir en musique, on va écouter Manu Dibango avec Bix Blow. Il sera ce soir, normalement, à l'espace Jean Legendre, c'est complet. Mais voilà, on écoute un morceau pour se quitter. Bon après-midi, bon courage si vous allez au boulot. Et puis, à demain matin.
Massa Big Blue, domaine mon.